Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada. France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Queyrad.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette librairie francophone estivale, ouverte à toutes les cultures, dans toutes les disciplines. Voici le sommaire. Vous nous écoutez quelque part dans le monde et nous allons vous faire voyager ailleurs une nouvelle fois au cœur de l'été. Jean-Christophe Ruffin a carte blanche cette semaine. Médecin, diplomate, écrivain et académicien, il est une personnalité culturelle majeure. Ses romans séduisent le grand public depuis Rouge Brésil, prix Goncourt en 2001. Et on peut dire que ses romans nous font voyager et nous font rêver. Jean-Christophe Ruffin est un auteur exceptionnel à tous les sens du terme. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un fidèle parmi les fidèles de notre émission, même en plein été, hors promotion. Vous avez invité un autre grand auteur et un autre académicien.
Bah c'est lui qui aurait dû m'inviter parce que c'est à lui que je dois le respect. Et voilà, mon aîné, mais mon ami aussi, Jean-Loup Dabadie, écrivain, dramaturge, oui. Parolier, oui. Homme de cinéma,
scénariste,
de théâtre,
enfin, tout. Voilà. Bonjour Jean-Loup Dabadie.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous accueillir. Vous êtes membre de l'Académie française, auteur de scénarios de films cultes, de chansons non moins cultes. Peut-être qu'on entendra quelque chose tout à l'heure. Vous êtes vous aussi un voyageur. Vous aimez les gares et les aéroports, paraît-il.
Oui, parce que ce sont des endroits où les gens vous abordent, où on a tout le temps pour parler. J'aime les trains, j'aime les avions. J'aime les aéroports, sauf si on attend trop longtemps, ce qui malheureusement est le cas tout le temps maintenant. Mais enfin, ça donne l'occasion de faire des rencontres et d'avoir des conversations sur l'amour, la mort, la coiffure, comme disait notre ami.
Et d'écrire aussi, voilà. D'écrire parfois. Jean-Loup Dabadie et Jean-Christophe Ruffin sont dans la librairie francophone estivale. Le grand entretien aujourd'hui, ce sera avec Mathias Sénard, depuis Alger. Le chanteur français Raphaël sera au piano dans notre studio. Nous irons aussi dans un parc de Montréal pour parler écologie avec le plus célèbre des groupes québécois, les Cowboys Fringants.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Queyrad.
Et on commence avec un livre de poche pour votre été. On part tout de suite à Genève avec un écrivain sénégalais de haut rang. Le roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, paru en 61, est un classique de la littérature africaine, étudié à l'université et disponible en poche chez 10-18. On analyse ce récit avec lui 55 ans après sa première parution. Voici un moment de radio rare avec un auteur incontournable. Et bonjour Cheikh Hamidou Kane.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez vraiment marqué le monde littéraire africain et le monde littéraire mondial avec ce livre, L'aventure ambiguë, paru en 1961, édité en poche. Désormais, vous avez été haut fonctionnaire, ministre au Sénégal également. Vous abordez la notion de l'éducation et de l'identité. Et c'est vrai qu'il y a cette confrontation dans votre livre entre la modernité, la tradition. Pensez-vous qu'il faille aujourd'hui encore renoncer à une partie de ses traditions, une partie de sa culture pour entrer dans un nouveau monde?
On doit pouvoir renoncer à tout ce qui est dans son identité ou dans sa culture superflu et en contradiction avec l'ouverture au monde. Et on est en train de développer aujourd'hui un monde qui est globalisé où tous les humanismes se rencontrent. Maintenant que la colonisation est terminée, on peut continuer de se rencontrer entre Français, Canadiens, Belges, Libanais et partager un monde que les progrès de la science ont rendu plus confortable pour tout le monde.
Dans ce livre, Cheikh Hamidou Kane, il y a cette question fondamentale qui est au cœur de votre texte. Peut-on apprendre ceci sans oublier cela? Et ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie? Alors aujourd'hui, Monsieur Hamidou Kane a 86 ans. Quelle réponse avez-vous? Quelle réponse donnez-vous à cette question que vous posiez en 61?
On peut apprendre sans oublier. On peut apprendre le français sans oublier le poulard. Même si aujourd'hui, c'est seulement le français qui est enseigné dans les écoles au Sénégal, je suis de la conviction qu'il faut transcrire et moderniser nos langues maternelles et les utiliser comme langue d'enseignement. Donc, beaucoup des questions que j'ai posées dans l'aventure ambiguë trouvent des réponses positive aujourd'hui.
Aujourd'hui, et par rapport à votre expérience aussi, puisque vous avez étudié en France, que vous avez sillonné le monde entier, donc du coup vous en tirez différentes conclusions aujourd'hui. Cheikh Hamidou Kane, on estime la population subsaharienne à presque 2 milliards d'hommes. Ce sera dans 40 ans, 3 fois plus qu'en Europe, bien sûr plus que la Chine. Ce sera la population la plus jeune du monde aussi. Par comparaison, si on parle de la démographie américaine totale, hein, Amérique du Sud, Amérique du Nord, on approchera le milliard. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette population incroyable, 1 milliard 800 millions ?
Maintenant, les hommes de science sont à peu près d'accord pour considérer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais on va de plus en plus partager la conviction que l'Afrique est l'avenir du monde. Ce que vous avez rappelé, le poids de la jeunesse dans cette population africaine est un des signes de ce que le monde qui va venir est un monde qui doit compter avec l'Afrique. L'Afrique va occuper une place centrale dans ce monde. L'essentiel des ressources matérielles au plan minéral, au plan hydraulique, tout ceci est en Afrique. Et c'est pour ça que le monde entier est en train de tourner son regard vers le continent africain.
Il faut s'organiser
et
surtout.
On change les règles du jeu.
Voilà. Alors vous êtes partisan d'un continent qui se fédère, un peu sur le modèle des États-Unis d'Amérique.
Un peu sur le modèle aussi des Européens qui maintenant, après s'être entretués pendant des siècles, entre nations, maintenant, ils ont senti la nécessité d'avoir des armées communes, une monnaie commune, une économie commune. C'est une plaisanterie que, douloureuse pour nous de continuer d'être les 54 ou 55 petits pays d'Afrique qui sont des morceaux que les Européens avaient découpés sur le continent africain. Il faut réunir tout ça, faire les États-Unis d'Afrique.
Et ça va favoriser aussi, vous l'expliquez, la vie des Africains. Parce que d'une part, on va pouvoir mieux négocier les matières premières ou même l'agriculture. Et ça va permettre aussi au continent africain de pouvoir enfin se nourrir et pas d'exporter toute sa production.
Tout à fait, tout à fait. Nos États modernes africains doivent s'inspirer de cela et donc négocier ce retour de l'Afrique pour le bien-être des populations africaines.
Voilà, et puisque l'on parle de francophonie ici, puisque nous portons la francophonie dans cette émission, on peut rappeler aussi qu'avec le développement de la démographie africaine, la langue française sera d'ici 2050 probablement la deuxième langue la plus parlée au monde.
La deuxième langue la plus parlée au monde, voilà. Si aujourd'hui le français est la langue qui est parlée par le plus grand nombre d'êtres humains au monde, c'est à l'Afrique qu'on le doit, pas à l'Europe.
L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane est disponible en poche chez 10-18. On parle écologie dans un instant, avant de partir au nord de Montréal, dans le parc Jeanne Sauvé, avec Jérôme Duprat des Cowboys Fringants. Voici un extrait de Plus Rien, interprété par les Cowboys Fringants, justement. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. frère et mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Les Cowboys Fringants avec Plus Rien sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Queyrade.
Voilà, nous sommes dans le parc Jeanne Sauvé, quartier Hounsic, au nord de Montréal. Montréal qui célèbre son 375e anniversaire, nouvelle étape de la librairie francophone pour célébrer cet événement. Et cette fois, nous sommes avec le membre de l'un des groupes canadiens les plus célèbres. Bonjour Jérôme Duprat.
Bonjour Emmanuel et tous les auditeurs.
Tous les auditeurs qui nous écoutent à travers le monde, vous êtes membre du groupe Les Cowboys Fringants, un groupe engagé, écologiste, militant. Il y a même une fondation Cowboys Fringants pour défendre l'environnement québécois. C'est vous qui avez choisi de faire ce reportage ici. On vous a donné carte blanche. Pourquoi sommes-nous là, en lisière de bois?
Bien, nous sommes dans le quartier le plus au nord de l'île de Montréal. Donc, on est tout près de la rivière des Prairies. Et bien d'abord, c'est le quartier où j'habite, donc c'est près de chez moi, c'est pratique. Mais aussi, c'est un quartier où nous sommes intervenus avec la Fondation des Cowboys Fringants pour reboiser, revégétaliser l'île et la grande région de Montréal. Donc, c'est pour vous en donner un des exemples.
Partons dans l'herbe, hein, directement, avec tous ces arbres. C'est très, très vert. C'est un quartier qui est très vert. Alors, tiens, on a des musiciens juste là, dites donc. Vous les attirez, en fait.
Il y en a un peu partout. La journée s'y prête aussi. Hein. C'est une journée de canicule aujourd'hui. Il fait près de 40 Celsius avec l'humidité ressentie.
Vous avez lancé avec votre fondation un projet de plantation d'arbres. Donc, votre but est d'en planter 1 million d'ici 2020.
Oui, ben en fait, le projet de la Fondation, on l'a lancé en 2014, et on s'est dit, lorsqu'on fait des anniversaires, donc pour le 375e anniversaire de Montréal, on parle toujours d'infrastructures de legs. Et dans ce cas-ci, dans la plupart des autres cas au Québec, les legs sont souvent bétonnés. C'est des infrastructures grises, des promenades, et c'est très bien. Mais nous, on a eu envie, les cow-boys, avec des amis d'organisations environnementales, de faire un leg vert, des infrastructures naturelles. Donc, on s'est dit, allons-y pour le symbolique et tentons de planter 375 000 arbres.
Pour les 375 ans, oui.
Exactement. Donc, ça démarre en 2014. Nous, on a fait ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire faire des concerts bénéfices. Il y a eu des donateurs privés et publics. Beaucoup de gens ont embarqué dans ce projet. Et lors du Jour de la Terre dernier, le 22 avril, on a annoncé qu'on avait réussi à financer 410 000 arbres. La moitié de la mission accomplie parce que maintenant, il faut les mettre en terre.
Alors, justement, devant nous, il y a des plantations.
C'est, en fait, ici, c'est un dispositif scientifique. C'est une initiative internationale qui a été démarrée par deux chercheurs ici, un chercheur à l'Université du Québec à Montréal et un chercheur à l'Université du Québec en Outaouais. Et ça vise principalement ici à sensibiliser la population, à dire que quand on plante un arbre, il ne faut pas le planter pour aujourd'hui, en 2017, il faut le planter pour l'environnement futur, qui comprend les changements climatiques et d'autres pressions globales comme des espèces invasives. À Montréal, on a la grille du frêne, un insecte venu d'Asie et qui s'attaque à tous les frênes. Or, un arbre sur cinq à Montréal est un frêne. Donc, dans un horizon de 5 ans, il y a 20% des arbres qui potentiellement mourront. Donc, ça change beaucoup le paysage, la qualité de vie, la régulation du climat local. Donc, l'idée de ce dispositif scientifique, c'est d'alerter les différentes parties prenantes, les citoyens, de dire, essayons d'avoir une stratégie de plantation qui nous permet d'avoir une plus grande résilience pour les différentes échelles.
C'est un vrai poumon ici, hein. C'est vrai qu'on est, on respire très bien d'ailleurs. Ouais, ça change de la ville parce qu'on est vraiment au milieu des arbres avec une herbe verte incroyable. Alors, c'est sûr qu'on est en plein été, hein. Ouais, on va se rapprocher de l'eau là, juste là. Dans la chanson Plus Rien, qui figure sur l'album La Grand-Messe, aux côtés de votre tube Les Étoiles Filantes, vous évoquez le changement climatique et vous anticipez un désastre écologique et humain.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre.
Évidemment, dans une chanson de 3 minutes, on ne peut pas y aller de multiples subtilités. Alors, c'est souvent noir ou blanc. Effectivement, on décrit certaines situations, on y va d'une façon plus dure. Et ce qu'on aime bien, justement, de cette fondation, c'est un peu c'est notre bras armé positif.
Et vous l'autofinancez, hein, cette fondation. Il faut savoir que vous reversez entre 1 et 2 dollars sur les places de concert. Et puis, aux alentours de 25 cents, c'est ça? 50 cents par album vendu?
Oui, 50 sous par album vendu. Des fois, jusqu'à 1 dollar. On reçoit des dons de fans ou de gens qui appuient nos causes. Et notre fondation est 100% bénévole. Et l'idée, c'est aussi de redonner dans les collectivités. Donc, quand on fait des concerts à Montréal, on essaie de redonner pour Montréal. La même chose dans les régions du Québec. Quand on tourne en France, en Belgique, en Suisse, on essaie de trouver des associations locales et de faire des projets sur place. Donc, le même principe est aussi en vigueur en Europe où 1 euro par billet est remis à des associations locales.
Avec cette étendue d'eau magnifique et cet aspect très, très paisible ici dans ce quartier de Montréal. Alors, on va traverser cette piste cyclable avec des transats dans lesquels on passe, des transats en bois fixe, du mobilier urbain fixe avec des installations pour poser son vélo et se relaxer.
Voilà, c'est un exemple ici d'un segment de rue, là, le boulevard Gouin, où on a retiré la circulation automobile pour laisser place. Ici, les seules routes qu'on voit, c'est un sentier pédestre en bordure de l'eau, une piste cyclable et une aire de repos.
Quand le groupe Les Cowboys Fringants a commencé à avoir du succès, on a dit que vous représentiez la nouvelle vague des artistes produisant de la chanson engagée. Dans les années 80 et 90, on va pas citer de nom, encore que si vous avez envie, vous pouvez, mais il y avait une chanson très commerciale avec des artistes qui produisaient de la musique très commerciale pour représenter le Canada. Alors, du coup, vous, quand vous êtes arrivé, ça a été différent. Vous le revendiquez, ça? Vous continuez dans ce sens-là?
Oui, ben en fait, nous, c'est pas qu'on le revendique, mais c'est vraiment notre façon de faire les choses. On est un groupe, on est à la base quatre amis qui faisons de la musique ensemble depuis maintenant 22 ans. Et on est très peu, disons, plateau télé ou le succès commercial, on le chérit évidemment parce que c'est ce qui nous permet d'en faire un métier.
Mais oui, c'est le cas, mais...
Oui, mais...
C'est très rare dans les médias, c'est vrai.
Exactement, on n'est pas prompt à faire ce quoi on n'est pas à l'aise.
Moi, je veux passer à la télé. Moi, je veux... L'important c'est que je fasse parler de moi. Moi je veux passer à la télé. Moi je veux que tous les gens me voient. L'important c'est que je puisse parler de moi.
C'est très étonnant, hein, votre démarche, Jérôme Duprat, parce que d'un côté, vous êtes des stars du monde francophone avec la musique. Voilà, vous montez sur les plus grandes scènes du monde francophone avec un franc succès. Et en même temps, vous êtes vous-même scientifique. On n'en a pas parlé, mais vous êtes professeur au département sciences naturelles de l'Université de Québec. Et vous avez reçu la plus prestigieuse récompense du gouverneur général du Canada lorsque vous étiez étudiant pour votre thèse sur... Alors, je ne vais pas citer tout l'intitulé parce que c'est long. Sur les services écosystémiques dans la région de Montréal.
Oui, mais en fait, moi, j'ai toujours mené cette vie-là parallèle de scientifique. J'ai fait le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat et arrivé en bout de ligne, donc à la fin du parcours académique, je me suis dit, quel boulot pour être le seul compatible avec la musique, parce que le groupe, c'est ma vie également. C'est des amis, on a commencé adolescent ensemble. Donc, celui de professeur collait bien parce qu'on peut faire les horaires, on est en contact avec des jeunes, la recherche scientifique, ça m'anime également. Avec la musique, on est capable de toucher des gens, on est capable d'aller amasser des sous. De l'autre côté, avec toute la démarche scientifique, on connaît les réels enjeux. On est capable de réseauter avec parmi les plus grands scientifiques de Montréal, mais du monde entier, et faire des projets à l'intérieur de la Fondation qui sont tout à fait uniques parce qu'ils sont basés sur une science qui est tout à fait contemporaine et de l'autre côté, des leviers qui ne sont pas accessibles à la plupart des scientifiques.
Et vous arrivez à concilier musique et recherche sans problème?
C'est parfois difficile.
Ouais.
Des fois que je fais beaucoup de rencontres sur Skype avec les étudiants, ouais. Mais c'est tellement deux mondes différents qui m'amènent, quand je viens de faire une longue semaine à l'université, là que j'arrive sur scène, porté par l'énergie du public, et inversement, quand je retrouve des étudiants avec des yeux brillants qui me parlent de leurs travaux de recherche.
Et qui vous ont vu sur scène, sans doute.
Oui, oui, ouais. Ça m'est arrivé en début de carrière quand j'enseignais des cours et les étudiants arrivaient avec un chandail du groupe aux examens. Peut-être pensant que je donnerais une réponse plus facile à une main levée, mais bon.
Ça a marché?
Non, non, je muais comme une carpe, et voilà.
Alors que le soleil se voile un petit peu avec les nuages, on est vraiment au bord de l'eau, hein. On pourrait toucher la rivière là qui est juste à côté de nous. Merci beaucoup, Jérôme Duprat.
Merci infiniment.
Merci pour ce reportage ici à Montréal, dans ce parc et le quartier Aounsic, au bord de la rivière. Votre projet Nos Forêts Chantées, avec d'autres artistes québécois dont on a parlé, est sorti sur le label La Tribu. À bientôt. Merci, Jérôme.
À bientôt, au revoir.
À suivre, l'écrivain Mathias Sénard, prix Goncourt 2015, pour un entretien réalisé en Algérie. Ce sera après le rap de Dean Burbigo et Nekfeu. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves dans tes rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves dans tes rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves dans tes rêves.
J'étais avec F. Je sais même plus comment on avait atterri dans cette reste. Le genre d'endroit où il est difficile de ne pas croiser au minimum une ex-maîtresse. À l'heure où les mignonnes secouent leurs hanches et où les chasseurs préparent tous leurs plans, elle m'est apparue seule au fond de la boîte comme un crayon de couleur blanc. Le temps s'est arrêté pendant quelques secondes. J'étais figé me demandant est-elle de ce monde. Trop belle pour un décor au ciné. Le charisme et l'élégance d'une actrice de ciné. Si ce moment était une chanson, j'aurais kiffé mettre un pull-up. L'impression de regarder un film en noir et blanc où elle était la seule à être en couleur. J'ai bu mon verre sec, j'ai rafraîchi mon haleine, puis je suis parti lui parler. Elle s'est retournée d'un air dédaigneux et ses yeux semblaient dire qu'elle espérait mieux. Elle m'a dit tu vois ma pote là-bas, tu l'as draguée des semaines, puis tu la ken et tu l'as jamais rappelée. Donc épargne-moi tes beaux discours, c'est dead, la porte s'est refermée, elle a jeté la clé.
Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves dans tes rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves.
De la lumière pour mes pensées, du noir pour m'y plonger, de l'encre pour m'épancher. Un buvard pour m'éponger, une goutte sur le plancher. Pas encore droit mais je vais m'y pencher. Je pensais que ma dernière copine serait ma dernière copine. Est-ce de ma faute si je me lasse en 6 mois? Mon cœur est si dur, mes relations si molles. Victime de ma réputation, au point de finir écœuré plus d'un soir. Je t'ai vu, t'as décliné mon invitation. Je voulais juste parler, t'aurais pu t'asseoir. Tous ces combats intérieurs que je n'ai pas terminés m'éprouvent. Je trouve ça triste avec du recul comme le freestyle dans la voiture des mines m'éprouve. Tu crois que pour moi c'est un jeu tellement évolué, mais c'est sur toi que j'ai jeté mon dévolu. J'ai connu des aventures qui n'en étaient pas. Nouveau départ, j'étais jeune, tout le monde évolue. Mes sentiments je les cache, laisse-moi te libérer de ta jolie cage. Efface donc ces défauts que je ne garderai jamais. On sera comme June Carter et Johnny Cash.
Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves dans tes rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves.
Dean Burbigo avec la collaboration de Nekfeu, Tu rêves sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale.
La nouvelle escale de ce grand voyage culturel francophone, c'est à Alger à présent, avec Mathias Sénard, auteur du roman Boussole, prix Goncourt 2015, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir en poche chez Babel. Nous sommes sur l'Espace France, ici aussi là, le Salon international du livre d'Alger. Bonjour Mathias Sénard.
Bonjour.
Vous avez publié Boussole aux éditions Actes Sud. Dans cette émission, Mathias, vous le savez, nous organisons des rencontres entre artistes et écrivains. Jaoudet Gassouma est aussi avec nous sur ce plateau aussi là. Bonjour Jaoudet.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur, journaliste et artiste algérien, peintre, créateur de décors. Vous avez publié en 2014 La Kabylie, le cœur entre les montagnes aux éditions El Bayazine. Un beau livre de photos avec des dessins, des textes. La Kabylie est pour vous, je cite, une encyclopédie géographique. Graphique.
Oui, c'est vrai. Il suffit de lire les montagnes et de s'enrichir de plein de choses, de plein d'images. Mais c'est aussi tout un alphabet sentimental. C'est un alphabet de poésie, un alphabet de dureté, un alphabet de choses très difficiles, très... Mais qui en même temps sont des mines d'or pour un écrivain, voilà, je pense.
Alors Mathias Hénard, dans Boussole, vous explorez l'orientalisme à travers la relation de deux personnages, un musicologue autrichien et une orientaliste franco-algérienne. Vous montrez comment l'Orient a révolutionné l'art, les lettres et surtout la musique, Beethoven par exemple.
Oui, bon, c'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais c'est vrai que finalement beaucoup des grands musiciens qu'on connaît en Europe, Beethoven, Schubert, Mahler, ont eu un rapport... avec l'Orient, par l'intermédiaire de textes, de traductions. Et Beethoven, bien sûr, il a composé une marche turque, hein, comme Mozart, qu'on connaît, inspirée donc de la musique militaire turque du Mertel des janissaires turcs, et aussi une petite opérette orientaliste qui s'appelle Les Ruines d'Athènes sur un livret de Kotzebue, où il y a le chant des derviches, beaucoup d'éléments comme ça qui proviennent directement de l'Orient.
C'est vraiment des passerelles qui sont très importantes et c'est des nourritures qui se sont faites dans les deux sens. C'est des passages, des allers-retours qui sont fondamentaux dans la culture.
C'est vrai que comme Jaoudet Gassouma qui lit sur les montagnes kabyles, vous, Mathias Hénard, vous lisez dans l'orientalisme. Et vous montrez comme ça que cette influence est considérable et que notre culture aujourd'hui, culture occidentale, elle vient de l'orientalisme et plutôt de l'Orient.
En partie, oui, c'est-à-dire que c'est une histoire effectivement d'aller-retour, une histoire de va-et-vient entre l'Est et l'Ouest. Alors ça ne veut pas dire que nous venons de quelque part, ça veut dire que nous avons été toujours en contact les uns avec les autres et nous avons toujours échangé, et ça dans les deux sens. Et aujourd'hui en Europe, on a tendance à oublier cela et à regarder un peu de haut le monde arabe ou le monde turco-iranien en disant... Oui, bon, finalement, on ne leur doit rien, et puis on les voit avec une espèce de mépris, un peu comme des barbares, uniquement fanatiques, on ne voit plus que la violence, le fanatisme. Et ce que j'espère, c'est qu'on va retrouver justement le goût de ces allers-retours, et le goût de ces va-et-vient, et le goût de ces échanges, qui me semble absolument fondamental.
L'orientalisme n'est pas fondé sur une forme de fascination du colonialisme ?
Non, l'orientalisme n'est pas fondé là-dessus. Les deux sont concomitants, c'est-à-dire que la colonisation et la grande vague orientaliste sont au même moment. Et bien sûr, des peintres profitent de la colonisation pour pouvoir se rendre en Algérie, mais il faut séparer les deux. Il y a de la science qui marche effectivement un peu derrière les bottes des militaires, mais il y en a aussi qui est totalement indépendante, et on ne peut pas forcément avoir une parfaite adéquation entre l'un et l'autre.
Jaoudet Gassouma, dans votre livre « La Kabylie, le cœur entre les montagnes », vous dites « Il est de mon devoir de faire connaître les différents lieux de mon pays ». Par la connaissance, on génère forcément la tolérance, on génère aussi la réconciliation, d'après vous ?
Le colonialisme, effectivement, mais dans la logique de ce que disait Mathias Hénard, l'égyptologie a apporté aussi beaucoup, même si c'était sur les traces de Napoléon. Mais voilà, Goethe, il y a la traduction de texte aussi, il y a l'effet, comme on disait, des allers-retours. Donc réconciliation intelligente, oui. Réconciliation intelligente dans la découverte ou dans la redécouverte de l'autre, oui, effectivement.
Mathias Hénard.
Tout à fait, c'est-à-dire que pour se réconcilier, il faut s'être fâché, alors je ne sais pas si c'est vraiment voilà. Le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut...
Il y a eu des fâcheries.
Bien sûr, il y a eu des fâcheries.
Colonisation, c'est clair, mais, ah oui. Mais je veux dire qu'on est, des gens qui produisent des idées. Donc voilà, donc la fâcherie, si vous voulez, je pense que c'est des choses qui sont déjà faites et on a d'autres choses à construire. Même sur les douleurs, sur les blessures, il y a des choses à construire, c'est clair.
On vit avec quand même, oui.
On vit avec, c'est clair.
Oui, et puis surtout, il faut faire que ces échanges se poursuivent. C'est-à-dire de dire, oui, mais bien sûr, il faut continuer à se laisser influencer par autrui. Il faut justement, dans la connaissance de l'autre, se laisser se transformer par ce qu'on voit et par ce qu'on y découvre. Et c'est justement dans cette altérité qu'on se modifie soi et qu'on s'enrichit.
Mathias, il y a des passages très troublants dans ce roman. C'est passionnant, hein, d'une érudition intense. Vous racontez comment est né l'appel au djihad, par exemple. En 1914, les premiers à lancer cette idée, ce sont des Allemands.
Oui, l'idée d'un djihad mondial qui est utilisé contre l'Angleterre, la Russie et la France. Ce sont effectivement les Allemands les orientalistes allemands qui persuadent le sultan, donc sultan calife de Constantinople, d'Istanbul, ottoman, de proclamer le djihad contre la France, la Grande-Bretagne, la Russie, donc les infidèles, sauf les représentants des pays neutres quand même, et sauf les Allemands et les Autrichiens. Ce qui était un djihad assez spécial. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient dans l'idée de retourner les soldats coloniaux britanniques et français musulmans et les musulmans de l'Empire russe, en disant, mais regardez, le calife de l'islam, donc le chef des musulmans, c'est comme ça qu'ils le voyaient en tout cas, vous dit de combattre ces infidèles, donc vous ne pouvez pas vous battre à leur côté. Et cette idée, bah, ça n'a pas très bien fonctionné, mais ça va donner lieu quand même à certaines choses assez amusantes, comme par exemple un camp de prisonniers pour musulmans au sud de Berlin, où on va construire une mosquée ottomane, qui va être une des premières mosquées de Berlin. Beaucoup de choses comme ça qui aujourd'hui nous paraissent assez anecdotiques, mais qui disent beaucoup justement de la manipulation de ces phénomènes par les grandes puissances du temps.
Alors Mathias Hénard, votre roman est foisonnant, effectivement. Il n'est pas question que d'orientalisme dans Boussole. Vous évoquez aussi la Syrie à plusieurs reprises, ce pays que l'on n'aurait jamais imaginé dans cet état-là. On n'aurait jamais imaginé ce qu'il se passe en ce moment. La Syrie que vous connaissez bien, vous dites d'ailleurs être blessé par ce qui se passe, blessé par aussi cette façon de traiter la situation sur le plan international.
C'est vrai que... Voilà, c'est une catastrophe absolue, une catastrophe humanitaire, une catastrophe culturelle sur tous les plans. C'est un drame et contre lequel nous n'avons rien fait. Nous sommes restés immobiles. On connaissait très bien toute la barbarie du régime syrien. On savait parfaitement ce qu'il était, de quoi il était capable. On n'a rien fait. On savait que les clés du problème étaient aussi en Iran, en Russie. On l'a laissé franchir toutes les lignes rouges les unes après les autres. On n'a rien fait. Donc oui, effectivement, ça peut générer que une certaine colère de voir à quel point soit l'Europe est impuissante ou alors à quel point ils n'ont pas tellement envie de s'en préoccuper. C'est une chose ou l'autre. Ou les deux à la fois, peut-être.
Voilà. Mathias Hénard, l'Orient et l'Occident ne sont finalement que des frontières conceptualisées. Vous écrivez des Algériens, des Syriens, des Libanais, des Iraniens, des Indiens, des Chinois puisent à leur tour dans ce bahut de voyage, dans cet imaginaire. Les destins sont communs.
Oui, en tout cas, en ce qui concerne cette idée de l'Orient. Finalement, l'Orient, c'est un ensemble de fictions, d'images, de récits, de contes, de rêves, dans lequel, bien sûr, tout le monde puise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce monde globalisé, c'est devenu vraiment un bien commun. Voilà, un bien commun qui est libre partage, qui peut être réinterprété, relu, réécrit, réinvesti par les plasticiens, les peintres. Voilà, tout le monde a à sa disposition ce bien commun-là.
Voilà, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Mathias Hénard.
Merci à vous.
Merci, Jaoudet Gassouma.
Si, merci à vous.
Boussole, c'est chez Actes Sud, Mathias Hénard.
Merci à vous.
Avant de retrouver Jean-Christophe Ruffin et Jean-Loup Dabadie, voici le chanteur Raphaël pour un titre acoustique dans notre studio, au piano. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
Ce soir, nous nous battons pour rien. Rien d'autre que pour nos poings. On pisse ensemble sur le trottoir. Où nous irons tomber plus tard. Mais je te porte sur mon dos. Je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os. Je te porte sur mon dos. Je te porte sur mon dos. Le contact de ta peau. Tu as embrassé ta mère sur le front. Nous ne buvons jamais avant midi. Dans nos sacs, les walkie-talkies. Tu abordes ton père dans son lit. Mais je te porte sur mon dos. Je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os. Avec nos lampes torches dans la nuit. La fréquence des walkie-talkies. on se suit, ce soir nous nous battons pour rien, rien d'autre que pour nos poings, les coups qu'on prend on les rendra, les coups qu'on prend on les rendra. Et je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os.
La gentillesse et la générosité de Raphaël avec ce titre Sur mon dos dans une version inédite et exclusive pour la librairie francophone.
Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada. France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
Chaque semaine, nous donnons donc carte blanche à un auteur ou à un artiste fidèle à la librairie francophone. Aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Ruffin qui est avec nous avec la complicité de Jean-Loup Dabadi. Deux académiciens ensemble, c'est toujours très agréable. Vous vous entendez tous bien ou il y a des clans, il y a des petites concurrences à l'Académie française? Jean-Loup fait la grimace. Non.
Non, je dirais, j'en avais entendu parler avant d'entrer à l'Académie, enfin avant d'être accueilli.
Oui, oui.
Je ne dis pas ça par complaisance, mais je parle sous le contrôle de mon cher Jean-Christophe. On a été l'un et l'autre très bien accueillis, même par ceux qui probablement, tel ou tel, n'avaient pas voté pour nous, par préférence, c'est leur droit. Mais non, c'est leur droit. Oui. C'est rare qu'il y ait une élection de maréchal. Peut-être Simone Veil, elle le méritait bien, mais nous, certainement, on a eu des voix contre. Mais après, une fois que vous êtes entrés, vous êtes, c'est une classe où tout le monde est, a un esprit de camaraderie. C'est drôle de dire ça quand il y a des prix Nobel, des grands philosophes comme Michel Serres, des grands écrivains, des grands historiens, des grands romanciers. Mais on est très très bien accueillis.
Et d'accord.
Le rire n'est pas absent de nos séances, voilà.
Très bien. Jean-Christophe, vous validez?
Oui, c'est, bon. C'est une famille, c'est une grande famille en fait.
Bon. Vous avez eu carte blanche pour préparer avec nous cette séquence. Vous êtes le rédacteur en chef, Jean-Christophe, vous êtes médecin. Vous avez travaillé plus de 20 ans dans des ONG comme Action contre la faim par exemple. Vous avez été diplomate, mais on vous connaît surtout pour vos romans flamboyants, souvent historiques. Vous voyagez énormément. L'écoute et l'observation, c'est ce que vous appliquiez quand vous étiez médecin sur le terrain. C'est ce que vous appliquez aussi en tant qu'écrivain.
Oui, enfin, il faut écrire pour quelqu'un. C'est-à-dire que moi, j'ai renoncé il y a très longtemps à n'écrire que pour moi-même ou mon voisin de palier. Je veux dire, il faut s'ouvrir à quelqu'un. Je n'ai pas honte du tout, moi, et je pense que Jean-Loup ne me contredira pas, parce que c'est aussi un auteur grand public. Je n'ai pas honte du tout de m'adresser à un large public. Je trouve ça, au contraire, un honneur.
Mais il faut les côtoyer pour ça, c'est ce que vous dites. Aller sur le terrain.
Oui, c'est ça. Il faut, et notamment, les salons du livre, toutes les rencontres dans lesquelles on rencontre des lecteurs, ça vous rappelle qu'en effet, on écrit pour quelqu'un.
Jean-Loup Dabadi, vous avez travaillé très longtemps avec Claude Sauté, sur César et Rosalie notamment, et il disait, Claude Sauté, je ne peux filmer que ce que je vis.
Oui.
Donc vous partiez en repérage, comme ça, ensemble, arpenter des villes, arpenter des lieux.
C'est à moi qu'il a dit cette phrase un jour, parce qu'il me refusait une scène en me disant « Ah mon coco, comme il parlait, ça je pourrais pas parce que je peux filmer que ce que je connais ».
Mais on n'apprend pas l'imagination, c'est ce que vous racontez, vous. Ça ne s'apprend pas, ça, l'imagination.
Non, c'est pour ça que je suis toujours sceptique devant les écoles, les professeurs. Les publicités, apprenez à faire un scénario. Oula, non, on apprend sur le terrain. Quand vous avez des scènes de bistrot avec nos quatre ou cinq copains, il faut pas prévoir 85 figurants. Et la nuit, c'est trop cher. Et donc, il faut être un peu directeur de production en même temps. savoir ce que coûte un trait de plume. Alors moi, je ris avec Jean-Christophe parce que quand j'ai fini bientôt, je vous regarde avec vos sourires.
Non,
et vos deux mains.
Je fais rien.
Toi. Mais c'est important parce que Jean-Christophe a écrit ce magnifique livre, Le Colis Rouge.
Il me connaît déjà, en fait, vous avez vu. Première participation, il me connaît déjà. Allez-y.
Et quand Jean-Christophe
Christophe écrit Le Collier Rouge, oui. Livre magnifique, dont actuellement nous faisons... Enfin, Jean Becker fait un film avec notre collaboration comme écrivain, comme auteur. Et je dis, tu te rends pas compte, ça se passe pendant la guerre de 14, donc toi, d'un trait de plume sur ta montagne, dans ton beau chalet tranquille, tu écris « Une bombe éclate dans la tranchée qui fait... » Mais c'est tout d'un coup un torrent de boue, de sang, de, etc. On voit 30 cadavres enjambés par des anamites, et tout. Mais je dis, t'en compte, quand le directeur de production passe là devant, oh mon Dieu, et ça, non, les Autrichiens, pas 200, deux, ça ira très bien, on les filmera deux.
Donc du coup, vous avez adapté le scénario un petit peu, mais en même temps, Jean-Christophe, vous l'aviez écrit sans penser au cinéma, Le Collier Rouge.
Non, j'avais écrit sans penser au cinéma, heureusement, parce que, d'ailleurs, c'est un des livres qui est adapté, parce que dans d'autres livres, alors là, il y a carrément, dans d'autres de mes livres, il y a carrément des éléphants, etc., toutes choses qui sont absolument hors de portée de la bourse d'un producteur français.
Bon, on va parler des voyages avec vous. Il y a un voyage qui a marqué votre vie, Jean-Christophe Ruffin, c'est l'Éthiopie. Vous avez une maison là-bas?
Oui, j'ai un terrain là-bas, mais on projette d'y construire une maison, mais c'est extrêmement compliqué de construire déjà une maison à Brive-la-Gaillarde quand on habite Paris. Alors en Éthiopie, c'est quasiment impossible. Ouais. Il faut être sur place.
Oui, mais alors vous avez dit que la notion de voyage a considérablement changé en 40 ans. C'est-à-dire que l'Éthiopie, ça a marqué votre vie, c'est l'un de vos premiers voyages fondateurs. Et vous dites qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc quand on partait sans attache, sans balise. C'était le vrai dépaysement.
Ça, on pouvait être loin. Il y a 40 ans, vous voyagiez. Ça dépend où vous alliez, évidemment. Mais si vous traversiez, par exemple, je sais pas, le Sahara. Moi, j'ai le souvenir d'avoir traversé comme ça à partir de la Tunisie, allé jusqu'au Niger avec une voiture. Vous étiez loin de tout. C'est-à-dire que si vous arrivez quelque chose, personne ne le savait. Et vous ne saviez pas notamment non plus où vous alliez. Il n'y avait pas de GPS, il y avait peu de cartes à certains endroits. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette idée que même si vous pouvez être dans des endroits dangereux, même s'il peut vous arriver quelque chose, vous avez toujours cette espèce de couverture partout, invisible, mais qui finalement fait que vous n'êtes jamais perdu.
Voilà. Bon, le voyage, c'est aussi la musique, Jean-Luc Dabadie. Vous êtes forcément le premier témoin pour nous dire ça. Ce matin, en préparant l'émission, j'ai voyagé avec vos chansons, Jean-Loup. Il y a des chansons qui font du bien, comme ça, instantanément. C'est incroyable l'effet que ça peut faire.
De dire ça.
Mais vraiment, il y a des chansons qui nous font tout de suite partir. À interrompre. Vous la connaissez par cœur, Jean-Louis Dabadie.
Pas tellement, je me trompe.
Vous la chantez,
souvent, oui. Les chansons. Non, pas en gros, je reconnais. Oui.
Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous l'avez écrite, cette chanson Partir, pour Julien Clerc?
Pour faire court, c'était une chanson qui m'avait été demandée par Sylvie Vartan, parce qu'elle devait faire dans les émissions des célèbres Mariti et Gilbert Carpentier un duo avec Julien. Alors Sylvie m'avait dit avec son beau regard à marée basse, écris-nous une chanson. Alors et normalement, si vous écoutez la chanson, on comprend que chacun peut chanter un
vers. Ah oui, c'est vrai.
Partir, n'importe où, la peau change de couleur, au partir un jour pour ailleurs, etc., etc. Et puis, question d'édition qui les regardait, ils ne se sont pas entendus, la chanson s'est enlisée dans la mer des Sargasses, et puis quelques années après, Julien a dit, mais je vais la chanter tout seul.
Jean-Christophe Ruffin, vous avez réfléchi à un coup de gueule, une découverte culturelle et un engagement citoyen. On va commencer par votre coup de gueule, allons-y, après cette musique de Julien Clerc.
Non, mais coup de gueule, je pensais à ça l'autre jour, parce que je me dis, aujourd'hui, il y a des films, il y a des livres qu'on ne pourrait plus faire, qu'on ne pourrait plus écrire, qu'on ne pourrait plus... par exemple, je sais pas, le Père Noël est une ordure. Je trouve, je admire particulièrement ce film, mais oui. Je l'ai vu l'autre jour dans un avion et je me disais, quand il y a le monsieur là qui fait le cloug là, roulé sous les aisselles, oui, etc. Oui. C'est très drôle, mais aujourd'hui ça passerait pas.
Tu penses à la censure?
Ça passerait pas. Ah bah c'est pas une censure, mais on va commencer à dire oui, on stigmatise une population, etc.
Ah oui.
C'est-à-dire que on confond. L'humour avec une agression systématiquement.
C'est vrai.
Alors ça peut être le cas. Hein, je veux dire, récemment il y a eu des.
C'est la fameuse question. Est-ce qu'on peut rire de tout? Alors, on n'arrive jamais à répondre à cette question.
Aujourd'hui, Pierre Desproges, tout ça. Est-ce qu'on pourrait tourner
Coluche, par exemple,
la cage aux folles et Tonton Flingueur, etc. Est-ce qu'on pourrait tourner ça aujourd'hui? Je trouve qu'il y a une restriction aujourd'hui de ce qu'on peut dire, alors que l'humour n'est pas nécessairement une agression, pas du tout, même, ça peut être aussi
tendre, en fait. On peut rire de tout, pour vous, c'est ça ?
À condition de le faire avec une certaine décence, avec une certaine empathie, parce qu'il y a des, il y a un rire agressif, il y a un rire qui fait mal, mais il y a aussi un rire qui est simplement tendre et affectueux, presque.
Qu'est-ce qui vous énerve, Jean-Loup Dabadie, vous ?
Moi, ce qui m'énerve un peu, mais un peu tout le temps, c'est l'agression que subit sans cesse notre beau langage, le langage simple, le langage populaire.
C'est l'académicien qui parle, là.
Oui, mais aussi, bien avant l'académie, c'est le fils de mon papa et de ma maman, qui était très cultivé, beaucoup plus que moi, qui tenait beaucoup au respect du beau langage. Et nous, évidemment, à l'Académie, nous sommes là pour défendre et illustrer la langue française. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une séance, on ne fait pas que ça, mais il n'y a pas une séance où l'un ou l'autre d'entre nous met sur la table commune ce débat sur l'abus de l'emploi de tel mot, tel autre mot. Par exemple, je vous propose des prépositions « en » et « sur ». Il n'y a rien, quand même, de plus crispant, si, il y a toujours plus crispant, mais enfin, il n'y a rien de plus énervant d'entendre autour de soi. Moi, quand j'entends ça dans ma famille, on sait, on dit, ah, Jean-Loup, ça va encore l'énerver. Quand on dit, quelqu'un vous dit, vous habitez où? Ah ben, en ce moment, j'habite sur Chantilly. Quand vous habitez sur Chantilly, vous habitez à Chantilly. J'habite sur Chantilly, parce qu'avant, j'habitais sur Paris, et maintenant, avec mon mari, on s'est dit, mieux sur Chantilly. Ça
vous énerve.
C'est pas un coup de gueule, d'accord. Mais j'aimerais mieux sans quoi.
Bah quand même. Bon, vous êtes sur France Inter, la RTS, la RTBF, Radio-Canada, et sur RFI. Jean-Christophe Ruffin, vous avez réfléchi à un engagement citoyen.
Oui, enfin, je suis pas très actif, et je m'en veux d'ailleurs, mais je suis très concerné par un sujet qui, pourtant, avant, me touchait pas du tout, mais j'ai un petit-fils qui a des difficultés qui sont cataloguées dans ce vaste ensemble qu'on appelle l'autisme. Et donc, j'ai constaté à cette occasion à quel point la France était en retard dans ce domaine, à quel point les structures manquent, à quel point il est très très difficile pour les parents de prendre en charge des enfants comme ceux-là, et par conséquent, pour moi, encore une fois, c'est nouveau parce que j'ai été très engagé dans la solidarité internationale, lointaine, et je découvre la nécessité vraiment de se mobiliser pour cette cause.
D'accord. On va terminer avec vos découvertes culturelles. Qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs qui nous écoutent à travers le monde? Qu'est-ce que vous avez découvert cet été, vous, Jean-Loup Dabadie?
À moi? Écoutez, j'en parlais avec Jean-Christophe, j'ai eu la bonne surprise de retrouver par porteur ou par courrier le nouveau livre de notre ami Eric Orsena.
Oui.
Académicien.
C'est sur La Fontaine.
Alors, comment?
Sur La Fontaine.
Sur La Fontaine.
Bah oui. Oui.
Et j'ai eu juste le temps de commencer à lire. C'est un enchantement.
Oui, c'est
ça, c'est tout. Oui. Orsena, quand la dernière fois, il a fait une espèce d'opéra sur les moustiques. Tout ça,
c'était formidable. C'est livre formidable qu'il faut absolument lire sur la géopolitique des moustiques.
C'est extraordinaire.
Et toute l'histoire du moustique, finalement, et tout l'impact aussi sanitaire.
C'est passionnant. Et là, sur La Fontaine, c'est un livre pour toutes les classes, si j'ose dire. C'est enchanteur, avec des citations merveilleuses, son côté coquin, les femmes faciles de corsage, comme il dit. Il sort ces jours-ci en librairie.
Exactement.
En librairie.
Ce week-end.
D'accord. Oui. Pas dans les librairies, en librairie. Pas sur librairie, pas sous librairie.
Il est reparti. Lisez Eric Orsena. D'ailleurs, si vous voulez écouter l'entretien d'Eric Orsena autour des moustiques, vous pouvez retrouver cet entretien en podcast sur notre site internet. Jean-Christophe Ruffin.
Alors moi, c'est un livre qui sort aussi maintenant et qui, j'espère, aura une belle carrière à la rentrée, d'un garçon qui s'appelle Miguel Bonnefoy, qui est franco-vénézuélien. Et c'est un roman qui s'appelle Sucre Noir. Alors, c'est très, très approche effectivement très inspirée par le réalisme magique sud-américain. Hein, c'est vraiment un roman sud-américain. Mais c'est très très réussi. C'est très fort, très bien conduit. Et je lui souhaite, alors Miguel Bonnefoy est un garçon très jeune, plein de talent. Et je lui souhaite une très belle réussite avec ce livre.
Très bien, merci pour ces choix. On termine en musique juste pour le plaisir.
Quand elle s'échappe, où ça, pourquoi, tout, elle a tout, mais elle part, quel jeu elle joue.
Jean-Loup Dabadie qui danse,
vous
hein, quasiment.
Honneur, merci beaucoup, beaucoup.
Mais je vous en prie. Titre magnifique aussi de Julien Clerc, signé merci Jean-Loup beaucoup. Dabadie. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin pour votre fidélité indéfectible à la librairie francophone. Je l'ai déjà dit sur ces ondes, mais il faut absolument lire vos romans. Ils sont extraordinaires et ils resteront plus tard quand on sera tous morts. Parce que ça arrivera malheureusement un jour.
Oh non,
comme de grands classiques. Mais vous êtes immortel, vous, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai, vous êtes immortel.
Il a le droit de l'inviter le même deux fois. Je dis ça comme ça.
Voilà, j'espère. Voilà. En tout cas, je suis convaincu qu'ils seront immortels aussi, vos livres, Jean-Christophe. Merci Jean-Loup Dabadie d'être venu pour la première fois.
Un bonheur, un plaisir.
Dans la librairie francophone, on vous accueille les bras ouverts dans le club francophone que nous formons avec cette émission diffusée dans le monde entier. Merci Jean-Loup, merci beaucoup.
Merci Emmanuel.
Merci.
On termine avec le bonus du club et deux histoires personnelles francophones racontées par nos invités, histoires que je découvre en même temps que vous tous. À vous l'honneur, Jean-Christophe Ruffin.
Oh ben c'est une petite histoire de montagne. Un jour, j'étais dans les Dolomites, comme ça, dans un restaurant. Le soir, on avait été grimper avec un ami. Puis il y avait un monsieur qui faisait la tête, qui mangeait tout seul sa soupe. Là, puis il avait vraiment pas l'air content. Alors, au bout d'un moment, il était habillé en montagnard. Vous voyez, alors on est allé le voir. Puis on lui dit, mais vous êtes tout seul? Il dit, non, je suis en famille. Mais où votre famille? Alors il dit, ils sont dans la chambre. Tu vois, mais j'adore la montagne, nous dit-il. J'ai commencé la montagne et puis je me suis marié. Et ma femme m'a interdit de faire de la montagne. Alors, cette année, après 30 ans de mariage, j'ai obtenu enfin d'emmener la famille en montagne. Et je les ai tous emmenés en montagne. Et alors, je les ai emmenés à un refuge. Alors, on est parti. Et puis, ma femme n'arrivait plus à marcher. Mon gendre était malade. Ma belle-fille, je les ai engueulés. Je les ai poussés. Ils avaient chaud, ils avaient faim, ils avaient soif. Et je leur ai dit, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Malheureusement, quand on a trouvé le refuge, il était fermé depuis 20 ans.
Oh là là, c'est là. C'est une histoire vraie, c'est incroyable. Ouais, Jean-Loup Dabadie.
Moi, c'est une histoire qui touche ma petite maman, qui était extrêmement drôle. Elle vient me chercher à la sortie de Cagnes, à Louis-le-Grand, rue Saint-Jacques à Paris. Et ça va, mon chéri? Maman, ça va pas du tout, ça va plus du tout, je m'ennuie. Il faut jamais que les enfants soient en avance dans leurs études, on s'ennuie avec les plus grands. Qu'est-ce que tu veux faire d'abord? Je voudrais écrire des livres. Tout le monde rêvait d'être François Sagan à cette époque. Et je voudrais écrire des livres. Au lieu de s'émouvoir, au lieu de me faire côté passe ton bac d'abord ou entre à Normal Sup d'abord, écoute mon chéri, si tu veux le faire, si tu veux tout arrêter pour écrire des livres, et surtout des livres, eh bien, fais-le, et c'est certainement pas papa qui t'en empêchera pas plus que moi. D'autant que, avec toutes les nullités qui sortent, qu'on va sortir sans arrêt depuis 2 ans ou 3 ans, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas eu ta chance. Ça m'a fait glisser les chaussettes, vraiment. Je me rappelle, tu te rends compte ce que tu es en train de me dire.
Et vous êtes entré dans ce système, vous voyez.
Des années après, j'ai dit, finalement, avec toutes les nullités qui pressent en ce moment, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas ta chance. Merci, maman.
Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous les deux. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Verret et Leïla Corousselicois en France avec les équipes de la RTBF, de la RTS, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation Christophe Imbert avec Alice Christophe à la technique et Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine pour la dernière librairie francophone estivale, Alain Mabancourt aura carte blanche et vous entendrez aussi Hubert Reeves, Charles Aznavour et un reportage en pleine nature au bord des lacs canadiens dans la forêt des Laurentides. Très bon week-end et bel été à tous.